France Inter.
Bienvenue à tous. À la une de ce 13h, la recherche de compromis à l'Assemblée nationale entre le PS et le Bloc central pour trouver un budget. Débat ce matin au Palais Bourbon. Nous verrons avec Alexis Morel jusqu'où les socialistes sont prêts au compromis. Le Rassemblement national y voit surtout de la compromission. Marine Le Pen, Jordan Bardella a été ce matin en déplacement à la foire agricole de Poussée dans les Vosges. Nous y serons. Nous serons également en direct d'Abidjan pour le premier tour de la présidentielle. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette grosse séquence économique pour Donald Trump qui entame une tournée en Asie. Et en France, les passionnés de bande dessinée se donnent rendez-vous ce week-end à Saint-Malo. Le festival Quai des Bulles, un marché de la BD en déclin depuis 2 ans. Pour quelles raisons ? Eh bien, nous verrons cela avec l'invité de ce journal, Didier Pazamonique, le directeur du site Actua BD. Le temps de demain, le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec un ciel encore perturbé.
Oui, avec un ciel de traîne assez actif, un nuage, averse, quelques éclaircies, encore beaucoup de vent au programme.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Depuis 9h ce matin, les députés sont donc à la manœuvre. Deuxième journée dans l'hémicycle pour trouver un budget à la France l'an prochain. Débat en ce moment sur le volet recettes. Le Premier ministre n'a pas le choix, il lui faut trouver des compromis. Les tractations sont d'ailleurs en cours entre le PS et le Bloc central autour d'une version édulcorée de la taxe Zuckman sur les ultra-riches. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Eric.
Service économique de France Inter. Que proposent précisément les socialistes pour trouver un compromis ?
Alors, le PS l'assure, l'objectif est toujours d'imposer la taxe Zuckman originelle, 2% d'impôt plancher sur les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. Mais oui, il y a bien une réflexion en cours sur des alternatives, comme par exemple un impôt minimum sur le patrimoine des 10 millions d'euros, donc un seuil beaucoup plus bas, mais avec des exonérations. Le patrimoine qui relève d'une entreprise familiale serait ainsi épargné, tout comme ce qui relève des entreprises innovantes. On pense là aux start-up ou aux champions français de l'IA, Mistral, dont le sort a d'ailleurs été au cœur des débats sur la taxe Zuckman. Ce serait donc une façon pour les socialistes de ménager la chèvre et le chou, même si, hormis ces deux exceptions, les biens professionnels, donc tout ce qui dépend d'une entreprise ou d'un commerce, feraient toujours partie du calcul de l'impôt. Or, ça, c'est une ligne rouge pour le Bloc central. D'ailleurs, la taxe holding proposée par le gouvernement exclut, elle, tous les biens professionnels. Et la ministre Amélie de Montchalin a appelé hier soir à ne pas porter atteinte à l'outil de travail. Alors, un compromis peut-il être trouvé ? Réponse tard ce soir ou même peut-être lundi matin.
Alexis Morel, service économique de France Inter. Ce matin, l'Assemblée nationale a approuvé la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Le texte était proposé par la droite républicaine. Et à propos de l'amendement déposé par les socialistes pour une taxe Zuckman allégée qui sera donc moins douloureuse pour les grandes fortunes, eh bien écoutez ce que répondait ce matin sur France Inter l'économiste à l'origine de cette taxe, Gabriel Zuckman, également directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité.
D'abord, moi, je me réjouis que le principe de l'impôt plancher, c'est-à-dire de poser cette idée que les grandes fortunes doivent payer un minimum incompressible chaque année, soit un acquis. Ensuite, sur les modalités, on peut avoir une discussion, bien sûr, mais j'alerte sur ce que nous apprend l'expérience historique et internationale. Dès qu'on introduit des exonérations, c'est ça ce que cette expérience montre, c'est qu'on lance la machine à optimisation. La conséquence de ça, c'est que les milliardaires ne payaient pas et n'ont jamais payé l'ISF. À la veille de son abolition, en 2016, d'après les travaux de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, le taux effectif d'impôt sur la fortune pour les milliardaires français, c'était 0,005%. Donc là, il y avait quand même un échec intellectuel et politique dramatique qu'il ne faudrait pas répéter 40 ans après.
Gabriel Zuckman, ce matin, sur France Inter, invité de Marion Lourd. Compromis à l'Assemblée nationale sur la taxe Zuckman, donc le Rassemblement national y voit de la compromission. Marine Le Pen n'était pas à l'Assemblée nationale ce matin. Elle s'est rendue avec Jordan Bardella à la foire de Poussée dans les Vosges. Un rendez-vous que le président du RN ne rate pas depuis 2022. Et donc beaucoup, beaucoup de monde ce matin, dont notre envoyée spéciale Caroline Félix.
Oui, à l'entrée de la foire, c'est la cohue au milieu de la foule, un drapeau français, une pancarte marine à l'Élysée. On voit le carré blond de Marine Le Pen et Jordan Bardella qui enchaîne les selfies pendant une heure. Nina, 18 ans, aimerait bien avoir une photo.
Oui, voilà, surtout pour voir Jordan Bardella, que je suis fan de lui depuis quelques années maintenant. Et je voulais à tout prix le voir. Qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'espère, ou au moins faire une photo. C'est incroyable. Je pense que c'est incroyable de le voir.
Lucas essaye, lui, de se frayer un chemin dans la foule. Il n'est pas supporter du RN. Il étudie la sociologie à Nancy.
C'est un peu une star, ouais, j'ai l'impression. Enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des photos avec lui. Il n'y a pas trop le côté politique. Ouais, c'est un peu, c'est étrange.
Ouais, la politique. Paul, soutien du RN, 16 ans, 6 mai tout juste, il est venu à la foire pour les tracteurs, mais surtout pour soutenir le RN. Il aime leur discours sur les immigrés et les cas sociaux, comme il dit.
Quand on voit ce qui se passait avant et maintenant, c'est plus la même chose.
Ouais, enfin, après, t'as 16 ans.
J'ai 16 ans, voilà, comme vous le dites. Je suis pas encore calé politiquement, mais c'est ce que j'entends par chez moi, c'est ce que j'entends avec les idées que je me fais, quoi.
Et Sylvie, elle pense que Marine Le Pen va sauver la France et pour elle, il faut taxer les plus riches.
Il faut? Pourquoi toujours les petits et pas les gros? Mais je pense qu'il les taxera un petit peu plus, puis nous taxera un peu moins. Ça serait quand même plus logique. Ça ramènerait des milliards, puisqu'on en a besoin des milliards.
Et quand on lui répond que le RN a rejeté la taxe Zucman cette semaine en commission à l'Assemblée qui taxerait les plus riches, elle dit qu'elle n'est pas au courant. En tout cas, Jordan Bardella et Marine Le Pen vont rester plus de 3 heures ici sur la foire de Poussey.
Caroline Félix a poussé dans les Vosges. C'est une foire agricole qui remonte à la fin du XVIe siècle. Les Ivoiriens ont commencé à voter ce matin, premier tour de l'élection présidentielle qui devrait reconduire Alassane Ouattara pour un quatrième quinquennat. Le président sortant est opposé à 4 autres candidats qui ne lui feront pas beaucoup d'ombre, les principaux opposants ivoiriens ayant été préalablement écartés. Bonjour Omar Ouaman.
Bonjour Eric.
En direct d'Abidjan, c'est un scrutin présidentiel qui, localement, ne présente pas beaucoup d'enjeux.
Oui, pas beaucoup d'engouement, pas de longue queue devant les bureaux de vote, sauf dans les bastions acquis au pouvoir. Pas de suspense non plus. Alassane Ouattara, 83 ans, sera réélu à l'issue de ce scrutin. Reste à savoir s'il le sera dès le premier tour, comme le pronostiquent les observateurs, par chaos, comme le clament ses partisans. Une élection ternie par l'absence de 3 poids lourds de la vie politique ivoirienne, comme Laurent Gbagbo, recalé. Un coup d'état civil a dénoncé l'ancien président. Une colère partagée par ses électeurs qui ont décidé de boycotter massivement cette élection à défaut de pouvoir manifester. Les rassemblements ici sont interdits. 44 000 policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays. Un record.
S'il y a un enjeu dans cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Omar, l'enjeu est régional pour préserver un semblant de stabilité.
Oui, parce que la Côte d'Ivoire est la puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, un pilier qui joue un rôle stabilisateur dans une région marquée par les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 3 pays désormais sous la tutelle russe, un environnement régional fragile donc, et une crise post-électorale ici en Côte d'Ivoire pourrait avoir un effet domino sur ces pays voisins rongés par le terrorisme et les tensions politiques.
Omar Ouaman, en direct d'Abidjan avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Donald Trump, lui, entame aujourd'hui une importante tournée en Asie. C'est même son plus long déplacement à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche. Première étape en Malaisie, où le président américain doit participer demain, à Kuala Lumpur donc, au sommet des pays d'Asie du Sud-Est. Une rencontre d'ailleurs est prévue avec son homologue chinois Xi Jinping pour trouver un accord commercial entre Pékin et Washington, mais rien n'est acquis. Bonjour Sébastien Berriot, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Kuala Lumpur. Des élections chinoises et américaines, des délégations chinoises et américaines de haut niveau sont réunies aujourd'hui à Kuala Lumpur pour tenter de dénouer la situation. Une première réunion qui vient de se terminer.
Oui, les deux délégations sont restées retranchées toute la journée au Merdeka 118, le célèbre deuxième gratte-ciel le plus haut du monde ici dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Une réunion en hauteur et surtout sous haute pression qui vise tout simplement à sauver le tête-à-tête de jeudi prochain entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Depuis 2 semaines, la tension est brusquement remontée après la décision soudaine de Pékin d'imposer de nouvelles restrictions sur ses exportations de minerais rares. Washington a répliqué en menaçant de taxer les produits chinois à 100%. Alors dépêché à Kuala Lumpur, le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent savent qu'ils disposent de très peu de temps pour déminer le terrain avec de nombreux désaccords. Une source américaine évoque ce soir des discussions très constructives, mais pour le moment, pas de quoi parler d'un accord. Les deux délégations doivent se retrouver demain matin ici à Kuala Lumpur.
Sébastien Berriot, envoyé spécial de France Inter à Kuala Lumpur. Et dans cette tournée asiatique, le président américain n'exclut pas une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump qui cherche peut-être la guerre avec le Venezuela, on mettra un gros point d'interrogation, car depuis plusieurs semaines, Washington multiplie les opérations militaires dans la Caraïbe, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France. Cette fois, le président américain monte en puissance, il veut déployer un porte-avions.
Oui, et pas n'importe quel porte-avions, le Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, une menace militaire claire. Officiellement, oui, Donald Trump veut renforcer la lutte contre le narcotrafic. Depuis septembre, les États-Unis ont mené une dizaine de frappes aériennes dans les Caraïbes contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants. 43 morts au total, selon Washington. Mais derrière cette justification, eh bien probablement des ambitions plus larges. Le Venezuela, première réserve prouvée de pétrole au monde est proche de la Russie et de la Chine et dans la ligne de mire de Washington. Et les tensions s'étendent à la Colombie, dont le président Gustavo Petro, autre dirigeant socialiste, vient d'être lui-même frappé de sanctions américaines, accusé de ne pas lutter contre le narcotrafic. Gustavo Petro qui dénonce les frappes en parlant d'exécution extrajudiciaire. Pour beaucoup d'observateurs, Donald Trump pourrait en fait chercher à affaiblir ou faire chuter ses gouvernements de gauche dans la région, ses ennemis jurés, car parle d'une nouvelle guerre inventée pour masquer au fond une bataille d'influence autour du pétrole et du pouvoir en Amérique du Sud.
Claude Guibal, rédaction internationale de Radio France. La tempête tropicale Mélissa a fait 3 morts en Haïti. Cette tempête pourrait d'ailleurs se renforcer ce week-end et devenir un ouragan et toucher également la Jamaïque.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Faites-vous partie de celles et ceux qui enfilent des chaussons aussitôt franchi le seuil de la maison? 96% des Français le font. Ce samedi est la journée nationale du chausson à l'initiative de la Fédération française de la chaussure. Le chausson en plein renouveau. 35 millions de paires vendues l'an dernier, un chiffre d'affaires en progression de 3%. Nous partons à Laval, à quelques semaines de Noël. Martin Cotta. Pour devenir pantouflard, les clients sont ouverts à toutes les propositions.
Chez Margotine Chaussures, dans le centre-ville de Laval, la charentaise revient à la mode, notamment chez les jeunes, d'après Margot, la vendeuse.
C'est redevenu une grosse tendance. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça tient extrêmement chaud. Donc, je ne sais pas, soit les trentenaires sont radins et ils n'allument pas le chauffage chez eux. Non, je ne sais pas, honnêtement, je pense que c'est parce que c'est confort.
C'est ringard pourtant une charentaise, non ?
Eh non, maintenant, on a des charentaises rigolotes. Il faut regarder dans nos vitrines, on a des charentaises avec des personnages rigolos de films.
Il y a des charentaises Louis de Funès en vitrine.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Maintenant, on a la charentaise stylée et ça plaît, tout à fait, ouais.
La tendance est au cocon, au fameux cocooning, poursuit la vendeuse.
Depuis le Covid, y a eu quand même beaucoup de personnes à rester chez eux, donc à être en chaussons, avec la chemise en haut pour faire bien sur la vidéo avec le patron, mais derrière un bureau chez soi, donc avec des chaussons et le côté confort, oui, je pense que ça rentre en jeu depuis 5 ans, hein, tout à fait.
L'autre chausson qui attire, c'est la mule, avec son talon ouvert, la base pour Bernard.
On met le pied tout de suite dedans, c'est terminé. On glisse dedans. Moi, c'est la rapidité qui compte. La facilité.
Et le style pantouflard se cultive chez Bernard.
Et d'après la Fédération française de la chaussure, les Français possèdent en moyenne 3 paires de chaussons. C'était un reportage de Martin Cotta, ici Mayenne. Environ 45 000 visiteurs sont attendus jusqu'à demain soir à Saint-Malo, le festival de bande dessinée Quai des Bulles. Un marché de la bande dessinée qui est en recul depuis 2 ans, moins 9% l'an dernier, notamment dans le manga. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité. Bonjour Didier Pazamonique.
Bonjour.
Vous êtes directeur du site Actua BD. Cette chute du marché de la BD en France, est-ce qu'elle n'est pas finalement qu'un réajustement logique après quelques années particulièrement fastes dans l'après-Covid ?
Oui, mais c'est un réajustement, mais en même temps qui s'explique d'abord parce que c'est les mangas qui reculent beaucoup. Et pourquoi ils reculent beaucoup ? Ben parce que c'est une année 2024 sans One Piece.
One Piece, il faut rappeler ce que c'est. C'est la bande dessinée manga au monde.
Voilà, c'est 550 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un manga qui a vendu à des millions d'exemplaires en France. Donc, c'est un peu comme Astérix au fond. Et donc, ça a tout de suite un impact sur le marché. L'autre raison, c'est que depuis février, il y a plus de passe culture pour les moins de 17 ans. Et or, c'est eux qui consommaient les mangas. Et donc, du coup, il y a un petit ressac. Hein. Mais enfin, en même temps, le marché n'est pas menacé parce que depuis 2019, on avait énormément augmenté le chiffre d'affaires, hein, plus 41% en nombre et 50% en valeur. Et donc, un petit recul de 9%, bah, ma foi, bon, bah oui, c'est un petit ressac qui n'est pas très inquiétant.
Et la sortie d'Astérix en Lusitanie, l'album sera d'ailleurs certainement au pied des arbres de Noël. Est-ce que cet Astérix va faire remonter les statistiques ?
Ben c'est évident pour trois raisons principalement. La première, c'est que c'est assez malin d'envoyer Astérix au Portugal parce que il y a 2 millions de Portugais en France. Donc vous imaginez, c'est des gens qui vont être concernés, qui vont regarder l'Astérix, qui lisaient peut-être pas très régulièrement. Donc ça, c'est une première bonne idée. Pourquoi ça va faire fonctionner la librairie ? Bah parce qu'il y a plein de gens qui achètent pas de BD dans l'année, qui vont pousser la porte pour acheter le nouvel Astérix, et puis qui vont peut-être découvrir à côté le nouveau Picsou ou le nouveau Lucky Luke. Et donc ça a
c'est
tout de suite
un impact. C'est un marché bien vivant. Ouais. Est-ce que le marché français de la bande dessinée est vieillissant, ou bien est-ce qu'il parvient à renouveler le lectorat auprès des plus jeunes ?
Il faut nuancer. Il renouvelle le lectorat, si on veut, grâce au manga. Mais avec une petite nuance française. Par exemple, Mortel Adèle, qui a vendu 290 000 exemplaires l'année dernière, c'est un peu le format et le prix du manga. Et puis, il y a un autre succès qui a été énorme l'année dernière, c'est Inoxtag, le youtubeur qui a fait son propre manga. Il en a vendu 350 000. Donc, il y a un petit glissement qui se fait. Donc, je pense pas que le public vieillit. En revanche, le public vieillit heureusement parce que il y a une offre qui est destinée aux plus vieux.
Il y en a pour tout le monde.
Il y a tout ce qui est les romans graphiques.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup, Didier Pazamonique, directeur du site Actua BD. Je renvoie donc à ce festival de bande dessinée Quai des Bulles à Saint-Malo jusqu'à demain soir. Et pour les amateurs d'art maintenant, c'est l'un des événements du week-end. L'ouverture à Paris de la nouvelle Fondation Cartier, juste en face du musée du Louvre, dans un bâtiment entièrement rénové par Jean Nouvel pour exposer les collections du Fonds d'art contemporain Cartier. Premier rendez-vous avec cette exposition générale. C'est le thème de l'exposition, c'est même son titre. Exposition qui rend hommage à l'histoire de la Fondation Cartier, Julien Baldacchino.
Avec 600 œuvres réparties sur 3 niveaux, l'exposition navigue entre les sujets qui fascinent les artistes contemporains, du lien à la nature, à l'attrait pour le travail manuel. Le tout dans une scénographie qui fait dialoguer les supports, les thèmes et les époques inspirées du passé du musée. Grazia Quaroni est commissaire de l'expo.
Le titre exposition générale, on l'a trouvé dans l'histoire du bâtiment, les grands magasins de Paris, que ça allait du dernier modèle d'ascenseur jusqu'à la haute couture, sans transition quelque part. Et donc, on s'est dit que ce titre rendait bien l'idée pour cette collection qui est très hétéroclite par la taille, par la provenance et aussi par les expériences que nous avons eues avec chacun de ces artistes.
La Fondation Cartier met en avant l'attachement à ces artistes qu'elle expose régulièrement depuis 40 ans et qui forment une sorte de grand réseau. Parmi eux, Giuseppe Giuseppe Pennone fait partie des grands noms de l'expo.
Une fondation privée n'a pas la rigidité qu'il peut avoir un musée. Un musée ne peut pas exposer plusieurs fois le même artiste. C'est de l'argent public, il y a des règles. Une fondation, au contraire, peut travailler seulement avec un artiste. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant.
L'accrochage va aussi un peu plus loin que les arts plastiques et expose d'autres disciplines, comme les films documentaires de Raymond Depardon.
Voilà, la réouverture de la Fondation Cartier à Paris, exposition générale jusqu'au mois de juillet. Avant le point météo, en ce week-end de chassé-croisé, retenez que la circulation est fortement perturbée en ce moment sur l'autoroute A7. C'est un camion qui a pris feu au niveau de Montélimar en direction de Marseille entre les sorties 17 et 18. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le ciel sera encore bien changeant cet après-midi.
Oui, la dépression Benjamin s'est éloignée vers le sud de la Norvège. Dans son sillage, on a ce fameux ciel de traîne, nuages, éclaircies et averses qui arrivent après les perturbations. Et ça, sur presque tout le territoire cet après-midi, le tout accompagné de bonnes rafales de vent entre 50 et 70 km à l'heure. Il y a deux zones un petit peu plus calmes, près de la Méditerranée avec davantage de soleil. Et entre les côtes atlantiques et la région centre, les éclaircies seront plus larges. Notez également que le ciel va devenir instable sur l'ouest de la Corse avec un risque orageux et qu'on aura encore un petit peu de neige au-dessus de 1800 mètres sur le massif alpin.
Un œil sur les températures.
Eh bien, on va rester sous les normales de saison de quelques degrés seulement. 10 degrés à Langres dans le nord-est, c'est la plus basse. Il fera 13 degrés à Strasbourg, 14 à Paris, 18 à Biarritz, un petit peu plus près de la Méditerranée, 19 à Marseille, 22 à Nice et 24 à Bastia.
Les prévisions de Céline Dacosta.